Saina.
Bonjour.
Alors, nous sommes très ravis de t'accueillir dans l'enceinte de l'Université Jean Monnet. Donc, je me présente, je suis Anthony.
Jeanne,
Noémie,
Julie.
Enchantée.
Donc, nous sommes là pour t'interviewer sur ton sujet de thèse qui s'appelle « Approche historique et épistémologique de la terminologie et de la notation de la musique iranienne ».
C'est ça.
Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ?
Bien sûr. Alors, je m'appelle Saina Zamanian, j'ai 29 ans. Je suis doctorante dans votre université et sous la direction du professeur Andemon Guillaume. Et sous direction de professeur Séverine Gabri. Ça fait 2 ans que je suis en France. En fait, en Iran, à Téhéran, j'ai étudié la musique savante iranienne en licence et en master. Et voilà, maintenant, j'étudie musicologie concernant les liens et les influences de la musique européenne, surtout la notation et terminologie européenne sur la musique iranienne.
Tout d'abord, faisons un point sur l'histoire de la musique iranienne qu'il nous faut replacer au sein de l'Empire perse. L'Empire perse désigne une série d'États qui se sont développés à partir de l'actuel Iran. Ainsi, dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, l'Empire perse s'étend de la Grèce à l'Inde et de l'Égypte à l'Asie centrale. La musique de cet empire est la musique persane, dont les influences sont tirées des différentes cultures de l'Empire. Mais, suite à de nombreuses guerres, l'Empire se fractionne, laissant l'Iran comme le plus grand territoire. En Iran, le système modal d'Astgah se développe et à partir de 1800, l'influence du monde occidental sera considérable sur la notation et les institutions musicales. La musique savante classique iranienne telle qu'on l'étudie aujourd'hui dans les conservatoires en Iran s'est ainsi fixée il y a 200 ans.
Est-ce que donc la musique persane est transmise à l'oral ou plutôt à l'écrit ?
Alors, quand on parle, quand on dit la musique iranienne, aujourd'hui en Iran, il y a 200 ans, au début, la première décennie, c'était totalement une transmission orale. Et après qu'on avait les contacts avec les pays occidentaux, ça commençait avec arrivée la technologie d'enregistrement. Ça commençait à changer. Avec la technologie d'enregistrement, alors on avait cette opportunité de le garder, de le réécouter, ce n'était pas 100% oral. Et aussi avec les notations, avec l'écriture de la musique, ça commençait à avoir d'autres manières. On avait d'autres manières pour transmission de la musique.
Okay.
Donc maintenant, on a les deux.
D'accord.
Plutôt la transmission écrite,
oui.
Mais ça existe toujours, la transmission orale, dans l'enseignement de la musique iranienne.
À partir de 1800, la musique iranienne, elle a fait une branche à part,
oui.
C'est ça. Et est-ce qu'il y a des spécificités notables par rapport à la musique syrienne, égyptienne, turque, libanaise ou arménienne ?
Ce que c'est en commun entre ces pays, on peut dire Moyen-Orient, c'est ça qu'on a la musique modale, un système modal. Et on avait tout la transmission orale, et je pense que c'était la même histoire pour tous les gens de la musique entière du monde. Et aussi, on l'appliquait jusqu'à maintenant. Il y a aussi des gens dans tous les pays Moyen-Orient qu'on applique toujours. Cette transmission orale. Donc, ça, c'est aussi en commun. Et d'autres choses, c'est ça, le rôle d'improvisation chez tous ces pays sont très importants, sont toujours une partie très importante dans la musique. Par exemple, moi, comme étudiante de la musique savante, il faut que je puisse improviser dans les modes que je connais. Je peux dire que je suis professionnelle si je peux improviser. si j'ai
le savoir
profond, le savoir vraiment complet à propos des modes. Et aussi, je peux improviser, si je peux improviser dans chacun des modes.
Pour être professionnel, l'improvisation, elle est obligatoire en fait. Si on ne sait pas improviser, on ne peut pas se dire professionnel du coup.
Exactement.
D'accord, très bien.
D'écriture, c'est le même que dans les pays occidentaux
Maintenant, oui. Il y a deux manières. La première, c'est une transmission orale. La deuxième, c'est une écrite avec l'intonation européenne.
D'accord.
Et est-ce qu'il y a des méthodes écrites qui sont spécifiques à l'écriture iranienne?
Oui. Parce on peut le voir.
Ce que vous avez dit, c'est méthode européenne, mais du coup, les Iraniens, s'ils veulent écrire une musique iranienne, ils vont l'écrire d'une différente manière.
Non, on a pris la notation occidentale, solfégique, surtout la musique classique romantique de l'Europe. Mm-hmm. Ce n'était pas la notation moderne, on n'utilise pas. Et aussi, après l'entrée de cette notation et terminologie occidentale, ça commençait, les gens ont commencé à écrire les méthodes d'une manière, avec l'utilisation de notation occidentale. Oui.
Ok.
Ça, c'est le premier livre écrit par Aline Rivasili. C'était un musicien, pédagogue, compositeur iranien qui a écrit la première méthode d'enseignement d'une manière occidentale, avec l'orientation occidentale. Et au début de ce livre, il y a une petite introduction à propos de la théorie de la musique européenne, les rythmes, etc., etc. Et aussi, Vasili, il a inventé deux termes pour l'écart de ton. Parce que vous le savez que on a, dans la musique persane, il y a des quarts de ton. Alors, il voulait utiliser la théorie de la musique occidentale et il voulait l'appliquer pour écrire une méthode de la musique iranienne. Donc, il a inventé ces deux termes. Ces deux signes ont déjà existé, on peut dire, parce qu'on a les mêmes, à peu près, les mêmes signes dans la musique arabe turque. Mais les thèmes sont inventés par Vasili, Koron et Sori. Koron, c'est entre bémol et écart, c'est une quart de ton. Et Sori, c'est entre écart et dièse.
Okay. Est-ce que vous avez des noms de... Est-ce que vous nommez les notes, vous?
Maintenant, oui. Avant, non.
Et vous nommez les notes et du coup, chaque note, chaque hauteur a un nom?
Oui, on a appliqué parce que... c'est une très bonne question. Parce que on a appliqué le système de solfège français.
Okay.
Parce que à l'époque que la relation, le contact entre Iran et les pays européens commençait, le premier pays que le roi d'Iran avait voyagé, c'était la France. Donc, on peut dire que les Iraniens ont vu les pays occidentaux avec les yeux des Français. On a appliqué le système solfège. Français, on dit do, ré, mi, fa, sol, la, si, bécart, dièse, bémol. Koron et Sori, c'est inventé par Vasili.
Oui, c'était... mais du coup, vous le dites aussi, du coup,
vous rajoutez
dedans.
Oui, do, Sori.
Ah.
Ré, Koron.
Ok.
En fait, c'est des altérations qui sont des nouvelles altérations, Koron et Sori.
Oui. On peut dire que c'est un instrument le plus célèbre dans la musique aujourd'hui, Iran, dans la musique savante. Et cet visage de Tar aujourd'hui, il y a 200 ans qu'on a cette forme de l'instrument. Ça a fait avec le bois de mûrier et noyer. Il y a 6 cordes, 3 doubles cordes. Mais comment on la corde, ça dépend à quel mode on joue.
Okay.
Elles ne sont pas fixes. C'est la peau de mouton.
Excuse-moi, quand tu disais, quand tu changes de mode, tu utilises d'autres cordes.
C'est un autre accordage.
Oui.
Un autre accordage.
Oui, c'est pas toujours fixe. Par exemple, comme violon ou comme les instruments occidentaux plutôt qu'ils ont les accordages fixes.
Parce que là, je vois aussi qu'il y a
les frettes.
Les frettes
qui ne sont pas fixes aussi.
Qui sont déplaçables.
Oui, exactement.
Ah,
et c'est comme sur une viole de gambe, en fait. Tu règles
exactement.
Les tempéraments.
Oui. On peut, vraiment, il y a beaucoup de liens quoi, entre les instruments anciens, les instruments baroques de la musique européenne et notre instrument savante aussi.
D'accord. Et là, du coup, j'imagine qu'il est réglé dans un mode spécial. Dans un système, je ne sais pas comment on peut appeler ça.
Les accordages ne sont pas fixes, ça dépend quel mode je joue et en quelle note. Par exemple, il y a un mode qui s'appelle Manhur. D'accord. Si je veux jouer Manhur en Do, j'accorde Do, Sol, Do. Okay. Deux fois Do, deux fois Sol, deux fois Do. Si je veux jouer Manhur en Fa, j'accorde Do, Fa, Do. Par exemple. Donc, j'accorde différemment par rapport à quel mode ou quelle tonique dans la musique occidentale. On peut dire tonique, mais ce n'est pas tonalité en fait. Mais j'utilise ce mot parce que c'est plus clair. Voilà.
Ok.
Et ces quarts de ton qu'on en a parlé, c'est entre, par exemple, couronne, c'est entre bémol et bécart, par exemple. Si je joue do, ré, mi bémol. Do, ré, mi bécart et entre les deux. Par exemple, je joue do, ré, mi bémol, fa, mi, ré, do. Do, ré, mi bécart, fa. Maintenant, mi couronne. C'est pas seulement à propos de jouer quelque chose. Jouer de la musique est comme, par exemple, faire du yoga. C'est une manière de penser. C'est, alors, pour avoir un contrôle sur soi, il faut être flexible, il faut être sportif, quelque chose. Mais c'est pas à propos de sport seulement. La musique, pour moi, c'est comme ça. C'est pas seulement jouer d'un instrument. C'est une manière pour avoir un contrôle sur mes mains, mon mentalité. Et aussi, j'essaye de m'écouter en jouant. Quand je joue, j'essaye de me regarder devant moi, m'écouter. Donc pour moi, c'est une manière vraiment de penser, de manière de vivre. La musique, c'est un instrument pour moi, pour me regarder profondément, pour me trouver. Mais je ne veux pas parler comme c'était religieux, vraiment. Non, c'est une manière de penser. Pour moi, c'est comme ça.
Merci beaucoup, Saina, pour cette interview.
Merci à vous.
Et on vous souhaite le meilleur.
Merci, bien à vous
à
aussi.
Bientôt.
À bientôt. À bientôt.
Non.